RMC.
Inbound the card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! Yeah! Yeah!
Basket time.
Final seconds. Bryant for the win.
Pierre Dorian.
Basket Time sur RMC, votre rendez-vous basket sur rmc.fr tous les mardis avec la Dream Team représentée aujourd'hui par Frédéric Weiss. Salut Frédéric.
Bonjour.
Arnaud Valadon. Salut Arnaud.
Salut à tous.
Et attention, je ne sais pas si c'est un rookie ou un revenant, je ne sais pas. Martin Bourdin. Salut Martin.
Salut Pierre, salut à tous.
T'es rookie?
C'est ma
deuxième apparition.
Non, d'accord. J'en
avais fait une avec Arnaud. Alors.
Exactement.
T'en avais fait une avec Arnaud, vous m'aviez caché ça.
Le 10-day contract a été renouvelé.
Très bien, mais que pour
j'ai
10 jours.
Hein.
Alors là, le thème, il est incroyable. C'est un spécial Cooper Flagg, ce jeune homme qui fait fantasmer l'Amérique. Appelé à être numéro 1 de la draft, vous allez me présenter ce Cooper Flagg. Pourquoi une telle hype? Et puisqu'on est dans les numéros 1 de draft, nous allons faire le bilan de la première saison de Zachary Risacher et des meilleurs rookies de l'année. Zachary Risacher est-il le meilleur joueur de la draft 2024? Dans la partie historique, évidemment, on ne peut pas résister au numéro 1 de draft les plus dramatiques. Il y en a quelques-uns.
Hein. Il y en a quelques-uns.
J'espère que vous allez être originaux. Et le quiz, évidemment, sera consacré au numéro 1 de draft, de près ou de loin. De près ou de loin, c'est ça,
oui,
qui
est c'est ça qui m'énerve déjà, parce que ce sera de loin, forcément.
Quand c'est de loin, bah, c'est de loin, c'est tout. Hein. Et puis, je vous ai renouvelé la petite nouveauté de la semaine dernière. Voilà.
Cool.
Musique, premier choix de draft, c'est pas évident. Hein.
Musique, premier choix de draft, vous allez comprendre, c'est très très simple. Et en plus, les extraits sont faciles, donc vous n'avez pas galéré. C'est parti pour ce Basket Time spécial Cooper Flagg.
You've probably heard his name. Cooper Flagg is only a freshman at Duke, but how many 17-year-old players can come in and straight up cook Olympians? Even LeBron James said he was impressed by Cooper's performance this summer.
Flagg on the attack.
In the corner for Flagg, and the fourth made three of the game already. Flagg off the glass and good. Anything he wants right now. Fantastic.
Getting to the rim, it's Flagg with the throwdown.
Cooper Flagg, 42 points. A new ACC freshman record. And the loudest ovation of the day belongs to Cooper Flagg.
Alors, vous avez probablement entendu parler de ce nom Cooper Flagg. En effet, je connais ce nom, mais je sais rien de lui. Je compte sur vous pour tout me dire. Pourquoi une telle hype sur ce jeune homme qui sera numéro 1 de la draft? C'est entendu, Arnaud?
Oui.
Il n'y a pas
aucun
doute
débat
là-dessus.
Il a tué le game, comme on dit.
Est-ce que les franchises se battent, celles qui tankent, en tout cas, pour ça?
Totalement.
Ok.
Totalement, c'est... En dessous d'un Victor Wembanyama, en fait, on considère que Cooper Flagg va changer le destin d'une franchise. Quand Wemby, on va le mettre dans la case de ceux qui vont changer le jeu, tout
d'accord,
simplement. Donc, il est juste en dessous Cooper Flagg. C'est 19 points, 8 rebonds, 4 passes de moyenne, 49% au tir, 36% à 3 points.
Et en université.
À Duke, en université, puisqu'il est en train de faire la March Madness. Il est bien parti pour aller loin avec Duke, okay, puisqu'ils sont au Elite Eight, qui est l'équivalent des quarts de finale. On le compare, parce que tu sais, on adore...
Et quel poste d'abord?
C'est un 3-4, c'est un ailier, okay, assez complet. Certains, un GM sous couvert d'anonymat, a dit que c'était un prime Kawhi Leonard.
Ah, carrément.
D'autres le comparent à Kevin Garnett.
Ouais, ah, ça fait.
Mais disons que
on
le considère plus complet que Kawhi. Kawhi était très fort défensivement, ce qu'est Cooper Flagg aussi. Mm-hmm. Mais Cooper Flagg est jugé en avance offensivement, capable de tirer de loin, à de bonnes mains et surtout très athlétique. Bon. Et
avant d'être Kawhi Leonard, il faut être clutch. Hein.
Donc ça, on verra clutch, évidemment.
C'est ça. Mais c'est sur son évolution, ça, qui doit être clutch.
Exactement. Mais donc on ne peut pas le déterminer aujourd'hui.
Le talent est là. Le talent.
Et l'autre point, c'est que c'est un Américain. Et ça, ça change aussi énormément parce qu'on attend à ce que Cooper Flagg soit l'un des visages américains de la NBA ces prochaines années. Vous le savez, il y a eu deux first pick 2023-2024 français avec Zachary, mm-hmm, et Victor. Et il y a aussi cette énorme attente, c'est un visage américain.
Alors pourquoi cette hype spécialement sur lui, Fred? C'est le jeu ou c'est le fait que ce soit un Américain?
Alors que ce soit un Américain, ça aide forcément, hein, mais le jeu aussi, parce qu'il est capable de défendre, il est grand, il fait 2m6, il a des grands bras, il peut défendre à peu près sur tous les postes, il a cette volonté en plus de défendre, il peut contrer, il peut intercepter, il peut tenir l'homme, donc déjà défensivement c'est très fort. En plus, offensivement, il est capable de scorer. Oui, il y a 3 points, mais il est plus sur le shoot à 2 points. C'est plutôt sa marque de fabrique. On l'a vu capable d'aller dunker sur n'importe qui. Il a de la puissance. Il est vraiment fort physiquement. Il est très athlétique. Il court dans tous les sens. Il a un gros cœur. Il est polyvalent, vraiment, offensivement.
Ça shoot de loin ?
Ça peut shooter de loin. Je crois qu'il a 36% sur la saison, donc peut shooter de loin. Non, mais c'est pas magnifique, mais c'est plutôt pas mal. Et il peut continuer à progresser sur ça. Les doutes qu'il y avait en début de saison, c'est sur sa capacité à créer pour lui et pour les autres. Parce que concrètement, c'est quelqu'un qui est très grand, très long et qui fait plein de choses. Et ben, il l'a montré cette saison qu'il était capable de le faire, de créer pour lui, créer pour les autres, de pénétrer, d'être dur près du cercle. Honnêtement, je vois pas trop ce qu'il n'a pas.
Je
comprends la hype et je suis d'accord avec Arnaud. On est loin de Victor Wembanyama.
Toi qui n'es pas un mec qui cède à ce genre de sirène.
Non,
d'accord.
Clairement. Bon. Mais c'est pas Victor Wembanyama.
C'est intéressant. Si c'est Fred qui vous le dit, c'est que ça vaut le coup de jeter un œil.
Non, mais concrètement, il faut se rendre compte de la réalité. Ce joueur est un joueur d'impact qui, dès qu'il va arriver dans la ligue, va pouvoir aider la franchise dans laquelle il sera. Parce qu'en plus, ce sera logiquement une franchise faible. Même si lui dit que c'est pas sûr qu'il. Enfin, il y a des rumeurs qui disent que c'est pas sûr qu'il franchisse le pas d'ailleurs qui se présente à la draft. Il y a quand même encore cette épée de Damoclès, même si je n'y crois absolument pas, il y a trop d'argent en jeu. Mais en tous les cas, ça a été dit. C'est un joueur. Tu sais qui me fait penser en termes d'être ready, NBA ready direct, à Banchero.
Okay.
C'est-à-dire que je pense que dès qu'il va arriver, il va avoir un impact. Okay. Sauf que pour moi, il a les capacités offensives d'un Banchero. Et défensivement d'un Kawhi.
Ah, très bien. Martin, est-ce que tu comprends la hype toi aussi ?
Oui, je comprends la hype parce que c'est un joueur qui est énorme. Au-delà de tout ça, on l'a dit, c'est un joueur qui est capable de scorer, mais il est capable d'avoir un impact sur les matchs sans forcément scorer. C'est-à-dire qu'il est capable de défendre. De l'envergure, on en a parlé, 2m16 d'envergure à 18 ans, c'est énorme. Et la chose qui a peut-être l'a fait passer dans une autre stratosphère, c'est ce scrimmage qu'il a fait l'été dernier avec Team USA, où il avait tenu tête à des joueurs NBA. Alors c'était sur un scrimmage, c'était en match de préparation pour les Avengers, mais il faut le faire. Et ça a marqué les esprits. Ça a marqué aussi les esprits des joueurs de Team USA. Et là où ça peut aussi changer la franchise finalement quand il arrive quelque part, c'est que je pense Cooper Flagg, c'est un joueur avec qui certaines superstars peuvent avoir envie de jouer en fin de carrière, etc. Ça peut ramener du monde peut-être dans certaines équipes. Donc une franchise qui récupère Cooper Flagg peut potentiellement construire aussi autour de lui et ramener d'autres gros joueurs, un peu comme Chris Paul est arrivé aux Spurs pour jouer avec Wemby. Et permettre de faire quelque chose. C'est pas Wemby. Dans l'attente qu'il y a aux États-Unis, je pense que les Américains peut-être attendent plus de Cooper Flagg que de Wemby parce qu'il est américain et que ça, c'est important pour eux, que ça fait longtemps. Après, moi, j'aimerais bien aussi qu'on lui laisse un peu le temps parce que les dernières grosses attentes de joueurs américains sur les premiers picks de draft, c'était Zion, c'était Ben Simmons. Quand on regarde où ils en sont aujourd'hui.
Alors, Ben Simmons, c'est australien.
Oui, mais ouais, c'est vrai. Ben Simmons, c'est australien. Il était à la fac aux États-Unis, donc il y avait beaucoup d'attentes autour de lui. Quand on voit où ils sont aujourd'hui, alors que des mecs comme Cunningham, comme Banchero, qui étaient peut-être un peu moins attendus, on leur a laissé le temps et on voit les joueurs qui sont en train de devenir aujourd'hui, c'est très intéressant. J'espère qu'on va aussi lui laisser le temps à Cooper Flagg.
Laissez-moi croire encore à Zion parce que j'adore.
Mais Zion, pour moi, il n'est pas enterré complètement.
La saison est très très intéressante.
Ça n'a plus rien à voir. En tous les cas, il a pris soin de son corps et c'est
depuis qu'il est fit
clairement.
Physiquement, c'est quelque chose.
Après, c'est normal que Flagg soit le futur porte-drapeau.
Excellent, bravo. Wow. Alors celle-là, on l'a pas vu venir en plus avec ton petit sourire et tes yeux malicieux.
Après. T'as une belle histoire aussi autour de Cooper Flagg parce qu'effectivement, c'est un joueur américain. Il y a Duke, qui est quand même une énorme université qui a sorti des énormes joueurs, Jason Tatum. Non, mais le...
On parlait d'énormes joueurs.
Ce serait quoi la franchise idéale ? Parce que je vois qu'il est du Maine, donc si je dis pas de bêtises, c'est Nord-Est, c'est ça ? C'est quoi la franchise idéale ? C'est Boston ? C'est
New York ?
Moi,
je pense que c'est Utah.
Utah ?
Ouais. Alors après, non, mais la franchise idéale, là, t'as Washington,
pour lui,
Utah.
Est-ce que lui a déjà exprimé un amour quelconque ?
Alors, il a déjà exprimé le fait qu'il voulait jouer pour une vraie franchise. Donc, t'élimines Washington directement, parce que c'est pas une vraie franchise. Mais non, mais concrètement, c'est très difficile de dire ce qui serait idéal pour lui.
Chicago ?
Je pense que où qu'il aille, il sera le projet.
Oui, après, tu as des franchises qui travaillent plus ou moins bien. C'est ça aussi.
Oui, c'est pour
problème.
Ça, Washington, je pense qu'il n'y a pas
du problème. Imagine, il arrive aux Spurs sur un malentendu, les Spurs récupèrent le premier pick.
Surtout que c'est une draft qui est annoncée.
Ça peut faire mal.
C'est un peu cheaté, ça, quand même.
Bah, c'est une draft qui est annoncée très riche en guard et pas vraiment en intérieur. Cooper Flagg est un petit peu à la limite. Mm-hmm. Hein, c'est vraiment un 3-4, mais il est capable d'avoir de l'impact dans le secteur intérieur. Et c'est une draft où on annonce pratiquement derrière lui que des meneurs, des arrières, des ailiers shooters. Donc ça aussi, ça va être... Moi, j'aimerais bien le voir à Utah. Parce que tu as Walker Kessler, tu as John Collins, tu as des joueurs un peu intéressants, tu as Lauri Markkanen. Tu as une petite base, je trouve, intéressante, plus qu'à Washington.
Markkanen et lui, c'est pas un peu sur le même poste ?
Bah, c'est ça. Mais après...
pas très loin, en tout cas.
C'est pas très loin.
C'est pas, elle est pas très sexy, cette équipe de Utah.
Mais
hein.
Non, mais elle est affreuse. Je comprends pas.
Le petit collier est bizarre.
Que, oui, je pense qu'Arnaud déteste Cooper Flagg. Je pense qu'il le déteste. Il veut qu'il aille là-bas chez les Mormons. Et que c'est un scandale.
Moi, je trouve que Utah, il y a des bons petits joueurs.
Et Fred, une franchise où vous aimeriez bien le voir atterrir, ce serait quoi ?
Moi, bah, les Spurs, j'aimerais beaucoup.
Moi, pas du tout.
Ah ouais ?
Non, je veux que ça soit...
Tu veux que ça reste Victor... Mais moi, après, ouais, Utah, je pense qu'il il peut fitter à Utah, je pense.
Oui, mais Utah, c'est tellement pourri.
Oui, mais voilà, justement, en fait, il y a tout à faire.
Mais par contre, s'il y avait un choix possible, ce que j'adorerais, hein, c'est qu'il aille aux Bulls. Je ne sais pas si c'est possible.
Bulls,
je sais
ouais,
pas.
Je suis
les
d'accord.
Bulls, je trouve que c'est ça dans la région. Parce que tu as Coby White, tu as Giddy qui pourrait faire plein de choses autour de lui, créer, etc. Ça pourrait être magnifique.
Pour le coup, là, eux, ils vont devoir tout reconstruire. Avec le...
Et si tu as ça.
Ouais, avec un vrai gros joueur, parce qu'ils ont des bons joueurs, mais ils n'ont pas de stars, ils n'ont pas de mecs énormes.
Ils ont tout libéré de l'espace, moi je trouve que ça fitterait énormément.
On n'oublie pas que voilà, pour le premier choix, c'est une loterie et que tu as 14% de chance pour Washington, 14% pour Utah, 14% pour Charlotte, 12% pour New Orleans à l'heure où on parle pour.
New Orleans, ce serait pas mal parce qu'eux, ils ont des joueurs intéressants. Pour
10% Philly aussi, Philadelphie. Mais moi, franchement, quand vous me dites.
Parce est-ce qu'Embiid va continuer sa carrière ?
Ça dépend de ses genoux. Hein. Mais t'as quand même plus de chances de le voir.
Même s'il continue, c'est fini.
T'as quand même 38, t'as une chance sur 3, en gros, de le voir soit Washington, Utah et Charlotte. Et pour moi, la franchise la plus cohérente ou la moins mauvaise, en termes de qualité de joueur, c'est Utah.
Si on pouvait éviter Charlotte.
Car Charlotte, ok, t'as la Melo Ball, mais il joue pas tout le temps.
C'est catastrophique, les trois que t'as cité.
Moi, je préfère le voir à Utah qu'à Charlotte.
Sur ces trois-là, je choisis Utah, mais c'est pas ce qu'on souhaite.
Oui, c'est la probabilité, c'est comme ça que ça marche. Hein. Oui, mais... Tu peux pas le mettre direct aux Lakers, Fred. Hein.
Non, c'est pas que de la probabilité, c'est de la chance aussi, et je lui souhaite.
Non, mais la chance, tu peux l'envoyer n'importe où.
Et San Antonio, c'est 5% d'avoir le first pick.
Ok.
C'est faible.
Très bien. Donc, Cooper Flagg, ce sera un premier numéro, probablement pas le dernier, mais c'est vrai que ça fait. Bon, il y a eu évidemment Victor, mais ça fait un moment qu'on n'a pas eu ce genre de joueur aussi attendu dans une draft numéro 1. On va beaucoup parler des numéros 1 de draft et donc on passe à la suite. Zachary Rizacher, c'est presque l'heure du bilan déjà.
With the first pick in the 2024 NBA draft, the Atlanta Hawks select Zachary Rizacher.
Oh, good hands by Rizacher. Rizacher, good hands to knock it away. Zachary Rizacher with a steal. In on Ingram, he slams this one.
Ooh. Zachary Rizacher has been playing like a completely different player since the start of the new year.
Baseline cut, Rizacher. How about that scoop to the hoop? Zachary, oh, behind the back for the slam, and that got him off the bench. Zachary Rizacher.
Behind the back.
Ooh.
On dira qu'il sera vraiment intégré à la NBA quand les commentateurs réussiront à dire son nom. On a remarqué ça dès le début. Hein. C'était compliqué. Zachary Rizacher aux États-Unis, ça a du mal à passer.
Pas simple.
Alors, est-ce que c'est le meilleur joueur de la draft 2024 ? C'était une draft qu'on annonçait faible. En plus, ça passait juste après Victor Wembanyama. Finalement, on se rend compte qu'il y a pas mal de bons rookies dans cette draft. On vient de parler d'Isaiah Collier. Il y a évidemment Stephen Castle.
Isaiah Collier qui joue où ? Utah.
Il y a Yves Missi qui fait du taf.
Zach Eddy,
Donovan Klingan, beaucoup d'intérieurs d'ailleurs, qui sont potentiellement des bons joueurs à venir. Et puis Zachary, qui a démarré mollo, et puis qui est en train de trouver sa vitesse de croisière. Alors, je ne sais pas si c'est dû juste au temps d'adaptation ou à autre chose.
Il y a eu le départ de DeAndre Hunter.
Il y a plein de choses. Il y a l'adaptation déjà. Il est passé de Bourg-en-Bresse à Atlanta. C'est quand même pas en termes de niveau, c'est pas les mêmes exigences.
Ceci étant, je sais pas si je préfère pas vivre à Bourg-en-Bresse.
Non, mais c'est parce que je suis pas en train de comparer les villes. Je parle en termes de niveau, la NBA, etc. C'est évidemment beaucoup plus compliqué. Ensuite, il faut un temps d'adaptation. C'est tout à fait normal. Surtout un garçon intelligent comme Rizak. Parce que concrètement, Rizak, c'est quelqu'un qui, comme son père, a besoin de bien sentir les choses, d'être dans un environnement sain. Donc maintenant, il s'est adapté. Ils ont fait quelque chose de super intéressant pour lui. Ils se sont séparés de Bogdanovic et de DeAndre Hunter. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'en gros, ben, on te donne plus de force, parce que Caris LeVert, c'est pas quand même le même niveau que les deux joueurs qu'on a cités. Donc ça veut dire qu'à Atlanta, on compte sur lui. Quinn Snyder, il a un programme très précis, pas beaucoup plus que 25 minutes de jeu pour lui, mais à chaque fois, il l'implique, il s'entend très bien avec la star de cette équipe, et donc à partir de là, ben, je me dis que oui, ça peut faire plein de choses.
Alors après, quand on dit le meilleur de la draft, on va aussi comparer aux autres, Martin.
C'est ça. Sur la saison, moi, je trouve pas que ce soit forcément le meilleur de la draft. Il y a des joueurs qui font des très bonnes saisons. Stephen Castle, Wells à Memphis aussi.
Très en baisse, hein, sur
qui,
la fin.
Qui est en baisse sur la fin de saison. Et en fait, c'est là où Zachary, je trouve que c'est très intéressant. C'est que sur les derniers matchs, sur le mois de mars, là, je trouve qu'il a passé un vrai palier. Il est à plus de 15 points de moyenne sur le mois de mars. Il est à plus de 40% à 3 points. Il fait un mois de mars très intéressant.
Février,
il est rookie du mois. Donc en fait, mieux. Il est en progression. Il est en train et finalement, ça, c'est pas très étonnant quand on voit le garçon. C'est que c'est quelqu'un qui est intelligent, qui fait tout très bien. Il est très propre dans son jeu. Il y a une séquence la semaine dernière, je crois, où il met trois paniers à trois points de suite à chaque fois dans le même spot, dans le même corner, parce que il est toujours bien placé. Il est là, il est disponible, sans forcément faire des je sais pas. Il va pas faire le concours de dunk comme Stephen Castle et faire des trucs de dingue en l'air. Mais par contre, il fait tout très bien. Il fait tout très proprement et sa progression, elle est très intelligente, liée aussi à la stratégie d'Atlanta dont parlait Fred.
Après, on va se demander aussi que vaut cette équipe d'Atlanta, parce qu'il y a beaucoup de joueurs intéressants, mais bon, ça
et
stagne quand même.
Un
joueur magnifique, George Niang, forcément, c'est fantastique. Ouais, bon.
Non, ils vont faire le play-in, ils sont 7e à l'Est.
C'est ce que je veux dire, c'est-à-dire 7e, c'est bien.
Mais comme tous les ans, en fait.
Oui. Voilà, c'est pas non plus fantastique.
Mais ils sont aussi dans une phase, pas de reconstruction, mais ils remodèlent un certain nombre de choses.
Reconstruction permanente, un petit peu quand même, Atlanta.
Oui,
mais c'est un peu le problème.
C'est un peu le permanente. Problème.
Mais disons que quand tu reconstruis, bon, ils ont quand même une base intéressante hein, quand t'as Trae Young. Et moi, ce que je trouve chez Zachary, il y a Atlanta est très bon sur l'environnement pour le développer. Franchement, je trouve qu'ils font les choses très bien. Martin l'a dit, il est à 54%. Au tir sur ce mois de mars. Atlanta est à 8 victoires et 3 défaites seulement. Il tourne bien. Zachary, parce qu'on parle souvent du selling des joueurs, moi j'ai l'impression qu'il va devenir un très bon lieutenant chez une équipe qui sera contender NBA.
Tu les vois contender à l'avenir ?
Non, lui, son rôle à l'avenir. Pourquoi pas
forcément
Atlanta.
À Atlanta, tu veux dire ?
Pas forcément à Atlanta, va être un joueur, quand tu as des pourcentages aussi propres en NBA, c'est hyper
rare. Une sorte de Boris Dio, quoi.
Je le comparais à un peu plus, peut-être plus créatif.
Et il perd quasiment aucun ballon aussi. Hein.
Il perd aucun ballon, il défend. Je faisais la comparaison en antenne avec Fred. Il me fait penser un peu à Michael Porter Jr. à Denver. Et Fred me disait, beaucoup plus mobile, Zachary, plus complet défensivement.
C'est parce un robot, que Porter Jr.
Parce que ce sont des joueurs qui, offensivement, sont très propres. Ils mettent plus de la moitié de leur tir. Quand dans une NBA, tu as des sagouins à 38-39%. Zachary, c'est un joueur parfait en lieutenant. Peut-être
pas
plus.
Et c'est
pour
ça que c'est son problème. Et c'est, pour moi, c'est ça son problème. Parce qu'il est trop propre. C'est qu'il réfléchit. C'est qu'il intellectualise le basket.
Ah, il faut être un peu débilos pour jouer
en NBA. Heureusement qu'il y a des joueurs comme ça.
Mais oui, mais bien sûr. Il faut être un peu débile pour jouer en NBA. C'est-à-dire que
plus de spontanéité, quoi.
Voilà. Mais oui, mais quand je dis débile, c'est évidemment pas débile.
Et moi, je te dis, Zachary sera
un des Trae Young qui est quand même très talentueux, mais
qui a peut-être brûlé parfois.
Peut-être brûlé.
Oui, je suis d'accord.
Moi, j'ai un problème avec ce genre de joueur. Là, je fais une petite parenthèse. C'est un peu comme LaMelo Ball. C'est très talentueux. Il y a aucun souci. En plus, je te dis franchement, j'aime la personnalité de Trae Young, qui est un petit merdeux là. Mais quel est l'avenir de cette franchise ?
C'est la faculté à.
Est-ce que voilà ? Est-ce que
pour moi, tu peux pas comparer avec LaMelo Ball ? LaMelo Ball, il est dans une autre sphère. C'est un mec.
Sauf qu'il joue pas.
Jamais je mettrai une pièce sur lui. Trae Young, je sais pas. Trae Young, il a montré des choses cette année. Je trouve qu'il est hyper intéressant. Il fait jouer son équipe.
Je dis pas le contraire.
Oui, non, mais ce que je veux dire.
Mais sa capacité à être au-delà du très bon joueur.
Son équipe.
C'est-à-dire
faire son équipe vraiment très haut.
C'est limité un petit peu.
C'est le problème d'Atlanta. Hein. Ça fait plusieurs années qu'ils essayent de construire avec autour de Trae Young. L'année dernière, il y avait ce débat. Est-ce qu'il faut séparer Trae Young pour laisser place à Dejounte Murray ? Finalement, ils ont choisi Trae Young à la place de Dejounte Murray. Et finalement, bah, quand tu regardes le classement, c'est toujours un peu pareil. C'est toujours le play-in, c'est toujours entre la 7e et la 10e place depuis 3-4 ans.
Oui, mais là, je pense. Alors, ils ont essayé des choses. Ça n'a pas marché, l'association avec Dejounte Murray. Mais là, tu as Trae Young, tu as Zachary Risacher, tu as Jalen Johnson.
Tu as Dyson
Daniels. Tu as Okongwu, parce que Capela va partir. Et tu as un très bon Okongwu au pivot qui est là. Donc, il y a vraiment des choses intéressantes. Et après, moi, aujourd'hui, je prends Trae Young à la place de LaMelo Ball. Pas sur les qualités. Attends,
pas débat.
Laisse-moi finir. Pas sur les qualités purement basket. Parce que je pense que LaMelo est au-dessus de Trae Young, c'est juste que Trae Young il joue et LaMelo il joue
déjà,
pas.
Je suis pas sûr, c'est pas parce que tu fais n'importe quoi et que tu as un peu de talent et que tu envoies le ballon en n'importe comment que
parlons de débilos.
Oui, non, mais concrètement, tu peux pas dire ça. Franchement, Trae Young est un vrai joueur de basket, LaMelo Ball c'est un joueur de play. playground.
Allez, on revient à Zachary Risacher. Est-ce que c'est le meilleur joueur de la draft 2024? Est-ce que vous mettez Stéphane Cassel au-dessus?
Maintenant?
Stéphane Cassel, il a un peu ce côté tête brûlée quand même.
Ouais, à l'instant T, je dirais Stéphane Cassel est meilleur que lui. Ouais. Concrètement. Pour moi, il n'y a même pas débat parce qu'il est plus, dans ce rythme-là. Il est en plus dans l'équipe qui lui convient parfaitement. T'as De'Aaron Fox qui n'est pas là, t'as Victor Wembanyama qui n'est pas là, donc il y a plus d'espace. Mais sur le long terme, je ne sais pas si Rizak n'est pas le meilleur.
Je suis d'accord, je pense que l'année prochaine, il y aura un gap entre les deux. Et à mon avis, Risacher sera meilleur l'année prochaine sur la saison. Je pense que j'ai une petite préférence pour Stéphane Cassel.
Personne d'autre vient dans ce jeu-là?
Alors, moi, juste sur Cassel, je pense qu'il a peut-être plus le potentiel par rapport à son type de jeu d'être un franchise ailleurs qu'aux Spurs dans les années à venir. Mais là, vu la fin de saison de Zachary, la fin de saison d'Atlanta, écoute, c'est ce qu'on s'était dit il y a, je crois, 2-3 semaines dans un podcast. C'est possible que Zachary, parce que sa cote monte pour le trophée de rookie de l'année. On avait fait une émission là-dessus, on avait dit effectivement...
Il a 10-12 matchs pour faire changer la donne, mais ça me paraît court.
Là, la petite musique, elle monte. Hein. Alors, les votes,
il
vont bientôt se terminer.
Il a beaucoup d'avance, Stéphane Cassel.
Mais bon, vu la fin de saison des Spurs, en plus, il démarre toujours pas, Stéphane Cassel. Tu fais démarrer Chris Paul, là, t'as un starter, le numéro 1 de draft. Écoute, la petite musique de Zachary, rookie de l'année, elle fait son chemin, là, aux États-Unis, déjà rookie du mois. Et je suis pas. Faut pas écarter cette
partout,
option.
Arnaud, il est partout. C'est lui qui a lancé cette petite musique.
Les patriotes, que tu veux que je te dise.
Ah,
il faut parler d'Alex Star, hein, quand même. Qui, pour moi, il va progresser énormément. À l'instant T, il est top 5 de ses rookies. Je ne sais pas où il peut aller. Parce
je pense
qu'il
quand
a
même que
beaucoup...
Washington est content de l'avoir récupéré.
Oui, mais il a une énorme marge de progression pour moi.
Après, alors, offensivement, il fait une saison magnifique.
Oui.
Vous me disiez en début de saison que défensivement, ce n'est pas la fête.
Défensivement, c'est un protecteur de cercle. C'est tout. Sur l'homme, il défend rien du tout. Je pense que Arnaud défend plus fort.
Alors, est-ce que tu as un avenir quand tu mets des points et tu défends le cercle?
Parce que je pense qu'il peut progresser.
Sur la défense?
Mais bien sûr.
Après, qu'est-ce que ça vaut?
Il faut qu'il fasse de la masse, il y a plein de choses à faire, bien sûr.
Même si on voit des choses intéressantes sur le terrain, mais qu'est-ce que ça vaut à Washington de faire ça, en fait? C'est moi, je me pose la question. Dans une franchise totalement éclatée.
Mais ça, c'est valable pour toutes les équipes qui sont éclatées. Il y en a quelques-unes.
Ah, mais là, Washington.
Utah, par exemple.
C'est le vide intersidéral.
Bon, donc Zachary Risacher juste derrière Stéphane Cassel, c'est un spécial Cooper Flag et on va faire donc un exercice que l'on adore, se remémorer les numéros de draft les plus dramatiques.
While some number one picks have gone to become all-time great players, there are others that fell way short of expectations and faded into obscurity shortly after.
Cleveland Trailblazers select Greg Oden from Ohio State University.
Greg Oden was supposed to be the next Shaq. Fortunately, those times were very short.
The Golden State Warriors drafted University of Maryland forward Joe Smith first
overall.
In
1998, the Los Angeles Clippers selected 7-footer Michael Olowokandi.
The Washington Wizards select Kwame Brown.
Cleveland Cavaliers select Anthony Bennett of Toronto, Canada.
4 years after he got selected first overall, he was already out of the league.
Alors, vous avez entendu quelques noms célèbres, évidemment. Michael Olowokandi, Kwame Brown, peut-être l'un des pires, quand même, choix.
Ouais, c'est possible.
Quand on fait ce genre d'exercice, il faut regarder qui y avait derrière aussi, hein, dans la même draft.
Et c'est ce que j'ai fait.
Il y a quelques choix intéressants. Donc, on va vous raconter trois histoires. Ça ne sera pas exhaustif. Qui commence? J'ai l'impression que tu es chaud, Arnaud.
Allez. C'est vrai que bon.
C'est un joueur de Utah ou non?
Non, ce n'est pas un joueur de Utah. Tu penses tout de suite quand même à Anthony Bennett parce que c'était un joueur qui ne faisait pas du tout l'unanimité. Tu as beaucoup de numéro 1 de draft qu'on va évoquer.
Ça, c'est les Cleveland Cavaliers en 2013. On entend la réaction de la salle. Hein.
Oui.
On vient de l'entendre.
Ah bah oui. Parce qu'il ne faisait horrifiés. Pas l'unanimité. Des fois, tu as des numéro 1, c'est parce que tout le monde est d'accord et ça n'a juste pas fonctionné. Moi, j'ai choisi, on va écouter tout simplement l'annonce d'Adam Silver, le commissionneur.
With the first pick in the 2017 NBA draft, the Philadelphia 76ers select Markelle Fultz from the University of Washington.
J'ai choisi Markelle Fultz en 2017. Pas tellement pour lui, mais pour le mauvais choix des Sixers. Pourquoi? Donc Markelle Fultz, on rappelle, meneur arrière de Washington en fac. Il n'avait d'ailleurs pas fait une très bonne saison collective. Mais c'est la densité derrière. Jason Tatum, De'Aaron Fox, Markkanen, tout ça en top 10. Tu rajoutes Donovan Mitchell.
Adebayo.
Bam Adebayo, plus loin. Et on rappelle que à la base, c'est Boston qui avait ce premier choix, récupéré via les Nets dans le fameux trade Kevin Garnett, Paul Pierce, exactement. Et Boston a fait un pick swap. Ils ont récupéré le troisième choix parce qu'ils savaient que ça serait Jason Tatum. Et ils ont laissé ce premier choix aux Philadelphia 76ers. Il y avait un duel entre Lonzo Ball à l'époque et Markel Fultz parce qu'il fallait absolument un guard pour cette équipe. Parce qu'en fait, c'est pas forcément le désert. Ils ont fait une saison catastrophique, les Sixers, mais tu vas récupérer Ben Simmons qui a fait une saison blanche 2016-2017. Tu as Joel Embiid. Et là, tu te dis, il te faut un joueur, tu as le premier choix, c'est le moment de construire une dynastie. Donc, ils choisissent Markel Fultz, qui finalement ne jouera que 14 matchs lors de sa première saison. 7 points, 3 rebonds, 3 passes. Certes, le bilan collectif est passé de 28 victoires à 52, mais ce n'est pas grâce à Markel Fultz, parce qu'en fait, on va rapidement détecter un problème à l'épaule. Et c'est là où j'en veux aux Sixers, c'est que ce problème à l'épaule, il n'est pas arrivé comme ça. Et en fait, ça va plomber toute la carrière de Markel Fultz parce qu'il ne va plus pouvoir shooter, tout simplement. Il va devoir modifier, il ne va plus pouvoir mettre un panier. 2018-2019, 19 matchs seulement pour cette deuxième saison. Et je vais vous faire écouter, c'est JJ Redick. Il est à l'époque aux Sixers. Et justement, lors de cette deuxième saison, alors que les Sixers avaient fait les playoffs avec Brett Brown lors de la saison rookie de Markel Fultz sans qu'il soit là, et bien on va demander un truc un peu bizarre à JJ Redick.
First year in Philly, we made the conference finals. I was the second leading scorer on the team, and our five-man starting lineup had the best five-man starting lineup in the entire NBA that year, in terms of like net rating per 100 possessions or whatever. And they come to me my second year and they said, we want to start Markel Fultz and have you come off the bench. And I said, okay.
Donc là, il t'explique, JJ Redick, qu'il était titulaire dans cette équipe en 2017-2018, qui font demi-finale de conférence perdue contre les Celtics. Ça marche bien. Et puis, on va dire...
On va mettre Markel Fultz
à ta place, alors qu'on avait le meilleur 5 de la NBA en net rating sur les stats et tout. Et bien voilà, les choix désastreux des Sixers, parce que Markel Fultz, il va être tradé moins de 2 ans après sa draft au Magic, où il va d'ailleurs faire un passage pas si inintéressant que ça. Mais bon, il était quand même traité contre un certain Jonathan Simmons, ainsi qu'un premier tour protégé top 20, donc en gros, pas grand-chose. Et là, on l'a perdu récemment, il est revenu signer, faire une petite pige à Sacramento. Et voilà, énorme gâchis, mais je pense, j'ai choisi pire first pick de l'histoire parce que c'est un choix totalement mauvais de la part des Sixers.
On en reparlera tout à l'heure de Markel Fultz. Martin, quel est le choix dramatique de numéro 1 que tu vas nous présenter ?
Moi, je vous propose un petit retour en arrière. On va revenir un demi-siècle en arrière. Je vous emmène en 1972.
Ah, premier choix de draft. Parce que là, tu vas nous parler d'un mec dont j'ai sûrement jamais entendu parler.
Bah, j'ai découvert son histoire également en cherchant un petit peu. Premier choix de draft cette année-là, c'est les Blazers qui l'ont et qui vont, comme souvent, aller chercher un pivot. Et comme souvent, quand les Blazers ont cherché un pivot, bah, ça ne s'est pas bien passé. Ils sont allés prendre un petit gars de 2m11 qui s'appelle Larry Martin, joli nom de famille. Il est choisi premier donc en 1972 devant notamment Bob McAdoo, qui est quand même un petit peu rentré dans l'histoire.
McAdoo.
Il y avait également Julius Erving qui a été drafté 12e dans cette draft là, donc quand tu parlais des noms derrière, voilà. Il est choisi en premier, Larry Martin, parce que il impressionne les Blazers en fait sur un match à la fac. Il est opposé à Bill Walton et il éteint Bill Walton, qui sera choisi par les Blazers un peu plus tard d'ailleurs dans sa carrière. Il éteint Bill Walton et donc les Blazers disent, nous, on le prend en premier, alors que Bob McAdoo était attendu numéro 1. Le problème, c'est que jamais il refera un match comme il a fait contre Bill Walton à la fac, Larry Martin. Il est numéro 1 de draft, mais il ne restera que 4 ans en NBA, 271 matchs, 5 points de moyenne, 4 rebonds de moyenne. Et donc évidemment pas un gros joueur et pas l'attente attendue d'un numéro 1. En 1976, changement de coach au Blazers, Jack Ramsey arrive sur le banc et compte pas vraiment sur Larry Martin, le pivot. Je le cite, Jack Ramsey, son problème c'est qu'il ne savait pas jouer, il avait beau essayer, il ne se positionnait jamais au bon endroit, il faisait plus de 2 mètres mais il était inoffensif en attaque, ne prenait aucun rebond et ne mettait pas de contre. Pour faire simple, il n'avait aucun talent. Voilà, bienvenue quand ton coach, quand il y a un changement de coach, que le coach arrive, il dit ça, bon, t'as pas forcément envie de rester. Il quitte Portland en 1976. Pour la petite histoire, Portland deviendra champion à la fin de l'année 76-77, donc il quitte en plus Portland au bon moment. Il est tradé à Seattle où il sera coupé avant le début de la saison. Il sera pareil les années suivantes aux Cavaliers et aux Bulls. Il finit par arrêter sa carrière sans jamais remettre les pieds sur un parquet NBA, donc après 4 ans. Il a peut-être bien fait d'arrêter puisqu'il s'est reconverti. Il s'est reconverti en tant que chauffeur pour UPS où il a eu une carrière là-bas. Il est devenu un peu dirigeant, etc. Il est resté là-bas pendant 33 ans.
Avec les camions sans porte, tu sais.
De numéro 1 de draft à chauffeur.
Effectivement, un numéro 1 de draft qui n'a pas la moindre qualité pour jouer au basket, c'est dramatique. Donc
il a fait le bon
Martin.
Match au bon moment.
Même si à l'époque.
Comme quoi, parfois.
Tu vois, faut être peut-être un peu plus.
Il peut t'arriver la même chose.
Ça, ça peut. Mais...
je suis un peu plus indulgent.
Arnaud, t'es indulgent.
Parce que je suis un peu plus indulgent parce que c'est une époque, tu vois, dans les années 70, t'as pas l'armada de scouts, de vidéos, de données. Donc effectivement, l'autre, il fait un match incroyable. Après, il y a peu de temps, Darko après Milicic avait fait
4 rebonds de moyenne quand tu fais 2m11 déjà c'est pas
énorme.
En 2004 Milicic avait impressionné tout le monde et ils avaient fait, Détroit avait fini par le drafter numéro 2 et tu vois c'est pour ça que j'ai pris plus Fools parce que c'est récent, c'est aujourd'hui avec tous les examens médicaux, toutes les données que tu as pour observer
se planter,
tu n'as pas le droit.
Après, tu as le droit avant d'avoir.
Ça arrive encore. Hein.
Tu as le droit de regarder plusieurs matchs avant de.
Même deux, ne serait-ce qu'un à Paris, la draft. Ouais, donc, évidemment, tu peux te tromper.
À toi, Fred.
Moi, j'ai choisi Michael Olowokandi, de la draft 98, donc drafté numéro 1. C'est un petit britannico-nigérian de 2m13, 122 kg. Donc, un beau petit bébé sympathique qui est drafté donc numéro 1. Et le mec n'a pas de peau d'entrée. Hein. Parce que c'est la saison où Michael Jordan s'arrête, mais c'est aussi la saison du plus gros lockout de l'histoire de la NBA. C'est-à-dire que la saison ne commence pas le premier jour, ça commence le 5 février. Entre-temps, il a le temps d'aller jouer avec Antoine Rigaudeau au Kinder Bologne, où il fait 3 matchs, et il est en championnat et 3 matchs en Euroleague, où il est fantomatique, concrètement, où il est critiqué par tout le monde, en disant « c'est ça votre numéro 1 de la draft ?» Donc tout le monde lui tombe dessus. Et il va continuer à jouer quelques années. Il fera au total 500 matchs, à 8,3 points, 6,8 rebonds. Il faut se rappeler que dans sa draft, il y avait quand même juste, enfin, un peu derrière, Vince Carter, Dirk, Paul Pierce. Donc ça pique un peu forcément.
Qui sont les génies qui ont drafté
il était considéré comme un bon contreur et c'était à peu près tout.
Les Clippers.
Donc, oui, c'était les Clippers. Et donc, concrètement, vrai
échec.
Si
en plus, Fred, il peut mettre un petit tag aux Clippers, c'est pas mal.
Parce que j'aime bien les Clippers cette année.
Ah bon ?
Ouais, oui, je pensais pas dire ça un jour dans ma vie, mais c'est très agréable.
Comme on dit, le facteur X de la fin de saison.
Je suis d'accord, avec un numéro 1 de la draft qui est revenu. Qui revient pas trop mal.
Absolument. T'as fini sur donc, Michael
Owen. Oui, je trouvais ça incroyable. Et juste pour la petite blague, Antoine Rigaudeau dira que c'était ridicule de choisir ce mec-là pour qu'il vienne en Europe et qu'il vaut mieux prendre des valeurs sûres.
C'est pas faux.
C'est pas faux.
Vous êtes prêts pour le quiz ? On va voir qui est le numéro 1 du quiz. Ah, c'est intéressant. Dans les joueurs en activité.
Le mec sauce sa question. Ah, c'est intéressant.
T'as qu'est-ce qu'elle est bien écrite, cette question, franchement.
Magic ou Curry, ça pourrait être un choix de sauce dans un restaurant de burger.
Je te tiens, tu me tiens par la barbichette.
Fred, tu me regardais comme ça, j'avais l'impression d'être devant un bocal avec un poisson rouge.
Tu peux me laisser parler,
Jean. Oh, pardon. Alors, il y a des nouveautés.
Vous connaissez la sauce magique au burger?
Mais c'est dans la chanson d'Orelsan, sauce magique Bogos.
Exactement. Voilà.
Tu connais pas Orelsan. Ça m'étonne de toi d'ailleurs.
Si.
Tu dois écouter même.
Dernier shot.
Alors, on parle musique, ça tombe bien, puisqu'il y a désormais une tradition. C'est un petit blind test. Alors là, comme on est sur les numéros de draft, on n'est pas sur une région. Donc, on ne vous a pas sorti des extraits qui correspondent à cette région. On a sorti tout simplement des tubes de l'année. Voilà, qui correspond un peu à un numéro 1 de draft.
On cherche le chanteur.
Numéro 1 des charts.
On cherche toujours le chanteur, c'est assez facile. On démarre par l'année de la draft de Michael Jordan.
Prince,
c'est Arnaud le premier. Bravo Arnaud. On enchaîne avec l'année de la draft de LeBron James.
Dido,
il est oui. Martin, ça va vite. Troisième extrait, l'année de la draft de Magic.
Diana Ross.
Mais presque.
Wow. Ouais, presque.
T'es pas loin quoi. Même dans l'intonation du nom, ça ressemble un peu.
Donna
Summer, excellent. J'ai donné l'indice 98, mais bravo Martin, excellent. On enchaîne avec Elton Brandt.
Cher,
ouais. Cher, ça il aime ça.
Ah mais les gars, c'est dans la super bon sur le.
Et on termine avec l'année 68 d'Elvin Hayes.
Les Beatles,
ouais. Bravo. C'est de la rapidité, mais Fred, t'es pas très rapide devant.
Non, pas trop. Souvent, mais en même temps, j'ai un mec super excité à ma droite, là.
Souvent, tu prends de l'avance sur les questions hors basket.
Oui, exactement, là.
Mais tout ce qui va t'aider, c'est que les prochaines questions concernent non pas Zachary Rizaché, mais son père, Stéphane.
Ok.
Qui a été vice-champion olympique en 2000. Qui était le pivot ?
Fred ?
Oui, c'est pas une question du quiz.
Bah oui, non.
Pas exagéré non plus. Hein. Ah, je vous pose 3 questions très rapides sur Stéphane Rizaché. Ok.
Attends. Question de rapidité ou chacun peut répondre ?
Non, chacun peut répondre, mais je pense que ça va aller vite. Je pense, hein, mais je ne suis pas sûr à 100%. Parce que les deux petits jeunes, là, peut-être qu'ils connaissent moins alors Stéphane Rizaché. Stéphane Rizaché, champion de France Pro A, avec quelle équipe ?
Paris Basket. 97.
C'est le PSG Racing. Ouais, alors, PSG. Est-ce que je lui accorde
PSG Racing, oui.
C'est... Si, c'est pareil.
Tu lui donnes tes fair play, hein, bravo. Hein. Arnaud qui commence à faire l'écart. Stéphane Rizacher, champion d'Espagne avec quelle équipe?
Malaga,
oui, il est chaud aujourd'hui, Arnaud.
Et t'as vu comme il est rapide.
Qu'est-ce qui lui arrive? Et enfin, Stéphane Rizacher, vainqueur de la Coupe de Grèce.
Olympiakos.
Avec quelle équipe? Olympiakos. C'est ton premier point, Fred.
Ouais, en fait, j'ai préféré répondre avant parce que si la question est terminée, il m'aurait sauté dessus, lui.
Martin, t'inquiète pas, il y a des questions pour tout le monde. Question où il faut utiliser son cerveau.
Ah.
Voilà, question à tiroir.
Bon, on est tranquille, Martin.
Question Inception, c'est pas le premier truc qui vient qui est la réalité. Ok? Je vous donne le nom d'un joueur français, écoutez bien. Hein. C'est difficile. Je vous donne le nom d'un joueur français. Vous me dites tout simplement qui est le numéro 1 de la draft cette année-là, l'année où il est drafté.
D'accord.
C'est bon, vous avez capté? C'est très dur. Hein, c'est très dur.
Dur de fou.
C'est très dur. Si vous galérez, bon, bah, on avancera plus vite.
Mais c'est facile?
Non.
Les mecs, non?
Non. C'est pas... Alors après, les numéros 1 de draft, non, pas spécialement. Non. Il y en a des faciles, il y en a des très difficiles. Mike Pietrus.
LeBron?
Excellent. Qui a dit LeBron James?
Moi.
Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui, Arnaud?
Je sais pas.
LeBron James, 11e en 2003, Mike Pietrus. Kevin Serafin, c'est un peu plus récent. Kevin Serafin. C'est très dur.
Yao?
Non, c'est pas Yao Ming. Kevin Serafin a été drafté.
John Wall?
Excellent.
Bien joué.
Ah, franchement, j'ai envie de te donner 2 points là.
Non. Mais... Non, c'est un miracle. Bah, je dis ça ou
c'est un miracle?
Ouais.
Ok, bah, bravo. Joachim Noah. Joachim Noah.
Joachim Noah, c'est en...
J'aime quand je vous vois comme ça, complètement.
Pas Brandon Roy, non.
Comment t'as dit?
Ben Simmons.
Non.
Non, je pense que j'ai l'année.
Tu penses que t'as l'année?
C'est quoi l'année?
2007.
Je pense que t'as l'année, ouais. Et je pense que t'es pas loin d'avoir le joueur.
2007.
T'as la franchise, en tout cas. Oden?
Marcus Aldridge.
Greg Oden,
ah,
bravo.
Oden, mais oui, oh
ouais, tu as donné le point, là. C'est une passe d'ess. Boris Diorifio.
Dwight Howard?
Non.
Yomi?
Non. Mini piège.
LeBron
James.
2003. Ouais. 2003. J'hésitais parce que je m'étais dit, Baba, il va sortir Babak.
Ouais.
Et j'hésitais à 2003 ou 2004.
Le quiz là.
Et enfin,
on commence quand?
Et enfin, Evan Fournier. Immense joueur. Hein.
Attends.
Evan Fournier, je vous donne l'année, c'est 2012.
Dwight Howard?
Non. Un peu plus récent. Il joue encore.
Anthony Davis.
Oui, voilà. Ah.
Bon, Fred, tu t'en sors pas trop mal. Fred et Martin, 3 points.
Je pensais que t'allais dire Tony Parker.
Déjà à
pourquoi Mi Brown en 2009?
Ouais, pareil.
Une petite charade sur le numéro 1 de draft. Mon premier est le point commun entre le mouton et la bouche.
Hein?
Mon deuxième est une saison. Vous avez une chance sur 4. Et si on ne fait pas mon troisième, on reste à la porte. Mon tout est numéro 1 de la draft. Dans les années 90, en 1940.
James Worthy?
James Worthy.
Mm-hmm. Non.
Pourquoi? Quels sont les
indices? Non, je sais pas. Le premier truc, ça m'a rendu
le
fou déjà.
Le point commun entre le mouton et la bouche.
Le mouton et la bouche?
Oui, bah ça, c'est...
Donc, alors...
Où? Allen Iverson.
Voilà, bravo.
Ah oui, Allen, ah oui, d'accord.
Bravo, frère.
Oh, Allen, c'est chaud. C'est la bouche.
L'hiver, et il faut sonner à la porte.
Sonne, oui.
À la porte. Dans les années... qu'est-ce que je fais là? Un vrai ou faux, donc c'est chacun son tour. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne comprends pas ma question.
On va meubler un peu.
Ah hein. Oui, ça y est, j'ai retrouvé ma question. Vrai ou faux, ce joueur a été drafté dans les années 80. On démarre avec Fred David Robinson.
Vrai.
C'est vrai, en 1987. Arnaud Magic Johnson.
C'est faux, c'est 79.
Excellent, bravo, c'est faux, c'est 79. Et pas facile, Larry Johnson, Martin.
Vrai.
C'est faux, 1991. Très facile et beaucoup plus rapide, numéro 1 de la draft 2021.
Markel Fultz?
Non.
Non, bah non.
Cade?
Zion?
Cade Cunningham, il est imprenable.
Non, il est aussi injouable.
Tiens, question sympa. Quelle est la franchise qui a eu le plus souvent le premier choix de draft?
Sixers?
Non,
Cleveland?
Cleveland, oui.
Cleveland, oui.
En 71, 86, 2003, 2011, 2013, 2014. 6 fois, pas toujours avec la même réussite. Hein. Tu vois, 2003, 2011, ils prennent LeBron et Kyrie Irving. Et 2013, 2014,
Wiggins, c'était bien.
Oui, enfin Anthony Bennett.
C'était bien, mais pas chez eux.
Et Wiggins.
Ouais, c'est ça. C'est devenu bien après.
On va terminer donc avec cette nouveauté. Il n'y a pas de bonne réponse à la question. Je ne vous donne le point que si vous êtes d'accord avec moi.
Ah, c'est la même chose que...
Même chose que la semaine dernière. Donc, entre Cleveland et Philadelphie, qui ont eu tous les deux, deux fois de suite, deux années de suite, le premier choix, qui s'est le plus troué ? Ok ? Entre Cleveland, 2013-2014, Anthony Bennett, puis Andrew Wiggins. Et Philadelphie, 2016-2017, avec Ben Simmons et Markel Fultz.
Donc là, on doit dire ce que tu penses.
Ceux qui sont
non,
plus
mais je vous demande de répondre en votre âme et conscience. Et je vous dirai simplement si je suis d'accord avec vous, je vous donne le point.
Moi, je dirais Cleveland.
Tu dirais Cleveland. Est-ce que vous voulez que je vous donne des noms de draft ?
Non.
De joueurs draftés ces années-là ? Non, vous en foutez ? Non,
ouais.
Très bien. Tu dirais Cleveland ?
Ouais.
Cleveland qui s'est le plus troué ?
Ouais.
Très bien. Pourquoi ?
Parce que au-delà des joueurs qui ont été draftés derrière, c'est qu'il n'y a aucun. Enfin, ni l'un ni l'autre ont brillé avec Cleveland.
Ok. Arnaud ?
J'ai envie de dire, parce que je pense que tu aurais dit comme ça d'instinct Cleveland, mais que tu as regardé et tu t'es dit quand tout ce qu'il y avait les années de Philadelphie, tu vas dire Philadelphie parce qu'il y avait notamment Jason Tatum.
Il y a des beaux joueurs des deux côtés. Hein. Il y a Giannis et Embiid pour Cleveland.
Ouais, mais 2013, Jaylen c'est Brand, loin, Giannis.
Tatum, Donovan Mitchell pour Philadelphie. Donc, bon. Donc tu dis...
Ouais, je vais dire Philadelphie.
Philadelphie.
Cleveland.
Et Cleveland, pour quelle raison ?
Parce que tu as cité les mecs qui ont été draftés, parce que je trouvais ça catastrophique, et que Simmons, c'était un excellent joueur quand il sort de fac. Donc,
logique.
Honnêtement, tu étais quasiment obligé de le prendre, okay. Franchement, vu sa hype. Okay. Donc, non.
Donc, tu dis Cleveland.
Oui.
Donc, le seul à avoir répondu Philadelphie, c'est Arnaud. C'est Arnaud qui a le point.
Alors,
si tu me connaissais bien, je déteste Ben Simmons.
D'accord.
Ensuite, tu as quand même Andrew Wiggins qui est le seul à faire une carrière, en vrai. Tu vois ? Dans ces quatre-là.
Alors, tu te rappelles pas Ben Simmons il y a quelques années.
Mais là, c'est pensé comme Pierre. C'est pas.
Oui, mais si pensé n'importe comment, ça compte. On va faire ça aussi.
Voilà. C'est aussi une question qui est faite uniquement pour énerver Fred. Hein.
Oui, mais ça marche.
Voilà.
Bien joué.
C'est très bien. Bon, là, est-ce qu'on fait la question multipoint, sachant que vous êtes fait atomiser par Arnaud ?
Et que Fred doit y aller.
On a 10 vas-y, pour Arnaud, vas-y. 5 pour Fred, 4 pour Martin.
Je vais courir, ça me fera pas de mal.
Alors, chacun votre tour, vous allez me donner le nom d'un numéro 1 étranger. C'est-à-dire pas américain, évidemment, dans l'histoire de la draft NBA. Et c'est donc Martin qui commence.
DeAndre Ayton.
Dede Ayton, les Bahamas 2018, bien, très bien, mais pas tactique. Pas tactique, il faut te le garder pour plus tard.
Ouais,
Arnaud.
C'est pas faux.
Victor Wembanyama,
voilà, évidemment, tactique.
Isaac.
Risaché tactique. Martin.
Karl Anthony Towns.
Karl Anthony Towns, c'est bon. Arnaud.
Olo Kandi,
c'est bon. Ça te fait un deuxième point.
Yao,
bien sûr. Bravo, Fred. Un deuxième point pour toi aussi. On retourne sur Martin.
Bargnani,
évidemment. C'est bon. 2006, Bargnani. Arnaud.
Ben Simmons,
c'est bon. 2016. Fred.
Kyrie.
Ah, pourquoi tu me dis Kyrie, toi ?
Australien, né en Australie.
Il est né en Australie,
mais il est américain, Kyrie.
Il a joué pour l'équipe nationale australienne. Enfin, il peut jouer pour l'équipe nationale australienne. Donc pour moi, il est australien.
Pour moi, t'as perdu.
Né à Melbourne.
Bon, pour moi, t'as perdu.
Né à Melbourne.
En plus, t'es en retard, donc t'as perdu.
Oui, mais né à Melbourne. Ouais,
né à Melbourne, et alors ?
Mais donc, australien.
Australo-américain, il a les deux.
Donc, étranger.
Oui, mais il est aussi américain.
Oui, mais il est.
Ah, okay, t'es pas étranger si t'as les deux passeports.
Je suis pas sûr qu'il ait la nationalité australienne.
Si.
Alors, c'est bon. C'est bon, on continue, Martin.
Michel Thompson.
Excellent, bravo. 78, les Bahamas. Arnaud.
Écoute, j'ai plus rien dans la besace.
Il y en a encore, hein, des connus. Hein.
Non, écoute, je
passe.
Ouais, je passe.
Bon, très bien.
Je vous laisse une chance.
Akinola Juwan.
Bon, en 84.
Avant de devenir américain.
Martin.
Bogut.
Andrew Bogut, 2005. Attention, Martin, il est en train de remonter.
Il est chaud,
Fred.
Il est chaud. Mal.
Il y en a encore, hein, dont on a parlé dans cette émission, en plus.
On va parler dans cette émission.
Ah, je suis nul.
Réfléchis. C'était pour Arnaud normalement. C'est lui qu'on a.
Wiggins.
Bah Wiggins, c'est bon. Wiggins, c'est bon. Bravo, Fred. Martin.
Et de Duncan, les îles Vierges.
Duncan, c'est excellent. C'est bon, Duncan. On considère que c'est bon, Fred.
Oh, c'est très large quand même. Hein. C'est-à-dire que s'il a un grand-parent qui est né dans un pays,
c'est bon.
Enfin bon, Team USA quand même. Hein.
Enfin, réfléchis, il nous a présenté quel joueur, Arnaud ?
Markel Fultz ?
Marquer le fou, c'est Martin, alors on va faire des comptes.
Non, mais c'est pour ça.
Marquer le fou, 10, ça marche pas. Et Arnaud est à 13. Si tu m'en trouves 3 de plus, tu as gagné le quiz. Ouais, et il en reste, ça tombe bien parce qu'il en reste 2.
Parfait.
Donc, si tu veux, pour le panache, tu peux les trouver. On a quand même donc Anthony Bennett.
Anthony Bennett, ouais.
Que notre ami Arnaud aurait dû nous donner. Et Paulo Banchero.
Mais oui, j'avais Banchero en fait.
Ah oui, Banchero.
Il y a le passeport italien. Bravo.
Ah donc ça comptait pour lui, mais pas pour Kairi.
Voilà.
D'accord.
Ouais, c'est le quiz n'est là que pour t'énerver.
Bon, ouais, ça marche.
Bravo Arnaud, à la semaine prochaine.
RMC Basket Time.